Pour commencer, laissez-moi vous raconter une courte histoire vraie. C'est l'histoire d'un chrétien persécuté qui a été invité dans une église du Haut-Rhin il y a quelques années. Le pasteur lui avait demandé de prêcher le dimanche matin et il y avait environ 100 personnes présentes au culte. Il apporte la prédication, les personnes de l'église apprécient, certains le saluent à la fin du culte, puis chacun repart chez soi. Jusque-là, rien d'anormal. C'est comme cela que nous vivons la plupart de nos cultes. Quelques jours plus tard, le pasteur demande à ce frère de bien vouloir animer la rencontre de prière un jeudi soir. Et vers 20h, 6 ou 7 personnes sont présentes. Le pasteur lui fait signe qu'il peut commencer. Et c'est à ce moment-là que le frère pose une question dérangeante. « Ne doit-on pas attendre les autres ? On n'était pas 100 personnes dimanche dernier ?» Le pasteur, avec regret, lui a répondu « C'est comme ça chez nous. Peu de personnes viennent à la rencontre de prière. » Le frère invité a laissé couler quelques larmes, puis a expliqué que dans son pays, la rencontre de prière était tellement importante que la plupart des personnes qui participent au culte sont aussi présentes lors des rencontres de prière. Et dans ce pays, il y avait un vrai risque de se réunir pour prier. Cette histoire vraie m'a fait me poser une question. Y a-t-il des raisons valables pour ne pas participer à la rencontre de prière? Alors oui, je crois qu'il y a des raisons valables pour ne pas venir à la rencontre de prière. Et je ne vais pas mentionner maintenant toutes les raisons qui pourraient être valables de ne pas venir à la rencontre de prière, mais donner quelques exemples, un petit peu simples peut-être. Imaginons que j'ai une semaine chargée et que je ressens de la fatigue. Dans ce cas, il se peut que je sois encouragé à la rencontre de prière et que Dieu ait prévu cela pour moi. Mais il se peut aussi que Dieu me demande de rester avec ma famille. En fait, il n'y a pas de règle. C'est à chacun d'examiner son cœur et d'essayer de discerner là où Dieu l'attend en priorité. Autre exemple, si un ami a besoin de moi, car il a fait un accident de voiture et que du coup il cherche en urgence quelqu'un qui pourrait s'occuper de ses enfants pendant quelques heures, dans ce cas, ce serait un manque d'amour de lui répondre non, car je vais à la rencontre de prière. Je vais vous raconter maintenant un petit témoignage personnel. C'était au tout début de mon ministère. J'étais en train de travailler sur la fête de Noël que je devais coordonner lorsque mon fils Timothée est tombé dans les escaliers. Il avait une petite ouverture sur le front, il fallait donc aller à l'hôpital pour quelques points de suture. Noémie est venue me trouver au bureau alors que j'étais en plein travail et je lui ai dit que je n'irais pas avec elle à l'hôpital car je devais travailler pour la fête de Noël de l'église. Aujourd'hui encore, quand j'y pense, je le regrette. J'aurais dû, dans ce moment de stress, accompagner ma femme et mon fils à l'hôpital. Je m'en suis repenti et je sais que Dieu m'a pardonné. Mais je n'en demeure pas moins averti, et d'ailleurs cet incident m'a permis de fixer concrètement les bonnes priorités. Dieu d'abord, ensuite la famille, en troisième l'église et en dernier lieu les autres activités. Alors ce matin, ce que je veux avant tout vous communiquer, c'est qu'il est bon de participer à la rencontre de prière de l'église. Mais j'ai choisi de commencer par vous dire qu'il est parfois bon de ne pas y aller pour des questions de priorité. Aller à la rencontre de prière peut être un combat. Pas parce que y aller est spécialement difficile en soi, mais parce que l'ennemi, notre ennemi commun, ne veut pas que les chrétiens s'unissent pour prier ensemble. Les efforts que nous faisons pour être avec les frères et sœurs, pour les encourager ou pour les laisser nous encourager, ne sont pas vains. Un jour, quelqu'un me disait « Si je n'ai pas envie de venir au groupe de maison, je ne vais tout de même pas me forcer à venir. Cela serait hypocrite de ma part. » Et il a ajouté ce petit verset qui dit que Dieu regarde au cœur. Alors oui, ce raisonnement peut se tenir dans certains cas, mais dire que Dieu regarde au cœur, c'est aussi dire que Dieu regarde notre volonté, l'engagement que nous avons envers notre prochain, dont nos frères et sœurs de l'Église font bien sûr partie. Dieu, en regardant notre cœur, voit les sacrifices que nous faisons par amour. D'ailleurs, ce petit verset, pris dans son contexte, Ce verset qui dit que Dieu regarde au cœur signifie que Dieu ne s'arrête pas aux apparences, car il sait voir le cœur, l'être intérieur. Ce verset ne signifie pas que Dieu comprend notre manque de volonté et qu'il l'excuse volontiers, ou qu'il comprend notre paresse et que cela lui convient bien. Dans certains pays ou certaines régions, des frères et sœurs ne vont pas à la rencontre de prière parce qu'ils habitent loin d'une église. Ça n'est pas notre cas en Alsace. D'autres pensent pouvoir se contenter d'une église virtuelle. J'ai été étonné de voir sur le profil Facebook d'un chrétien que ce qu'il appelait son église était en réalité un site internet. Et en consultant ce site, je me suis aperçu que beaucoup recevaient des révélations de la part du Seigneur, et en voici une que je vous cite maintenant. Le Seigneur m'a dit de ne plus aller dans les églises. Le Seigneur m'a montré que les pasteurs sont des loups. C'est l'apostasie dans l'église et je suis un prophète qui va tout dénoncer. Attention au site que vous pouvez trouver sur internet. Sur la toile, vous le savez, le meilleur côtoie le pire, y compris en matière de foi et de Bible. Aujourd'hui, il y a la tentation de rester chez soi tout en se nourrissant de la parole de Dieu, en écoutant et même regardant des messages sur internet. Même avant Internet, d'ailleurs, cette tentation existait déjà. J'avais entendu dans mon enfance qu'il y avait une église aux États-Unis où chacun pouvait venir avec sa voiture sur un grand parking en plein air pour vivre un temps de louange et écouter un message. Chacun restait dans sa voiture pour vivre le culte. Une église drive en quelque sorte. Là au moins, on pouvait encore apercevoir d'autres personnes à travers la vitre de la voiture, ce qui n'est pas le cas des églises sur Internet. J'ai d'ailleurs entendu sur Internet un pasteur qui prêchait sur le thème de la communion fraternelle. C'est un comble d'écouter cela sur Internet, surtout pour ceux qui ne connaîtraient que cette forme d'église. Bref, vous l'avez compris, rien ne peut remplacer la vraie réunion, qu'il s'agisse du culte ou de la rencontre de prière ou encore des groupes de maison et d'autres formes de rencontres. Nous en sommes probablement persuadés, mais le vivons-nous ? Quand je n'ai pas envie de faire quelque chose, j'ai tendance à vouloir trouver des explications, des justifications, et je peux même arriver à trouver des justifications compréhensibles et acceptables par d'autres. Par exemple, si j'ai prévu une soirée télé avec mon épouse à la maison et que mon voisin me demande un service, vais-je lui répondre « Impossible, je suis déjà bien occupé ce soir ?» Il y a des situations dans lesquelles cette réponse pourrait être légitime, mais il se peut aussi que notre réponse soit tout simplement une excuse parce que nous n'avons pas envie de rendre service, du moins à ce moment-là. Dans le contexte de Dieu qui offre le salut, beaucoup trouvent des excuses pour dire non à la grâce. Et je vais vous lire un texte que l'on trouve dans l'évangile de Luc, chapitre 14, les versets 16 à 24. Jésus dit « Un jour, un homme avait organisé une grande réception. Il avait invité beaucoup de monde. Lorsque le moment du festin arriva, il envoya son serviteur dire aux invités « Venez maintenant, tout est prêt !» Mais ceux-ci s'excusèrent tous l'un après l'autre. Le premier lui fit dire « J'ai acheté un champ et il faut absolument que j'aille le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit « Je viens d'acquérir 5 paires de bœufs et je m'en vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre encore dit « Je viens de me marier, il m'est donc impossible de venir. » Quand le serviteur fut de retour auprès de son maître, il lui rapporta toutes les excuses qu'on lui avait données. Alors le maître de la maison se mit en colère et dit à son serviteur, « Dépêche-toi, va-t'en sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les paralysés. » Au bout d'un moment, le serviteur vint dire, « Maître, j'ai fait ce que tu m'as dit, mais il y a encore de la place. » « Eh bien, lui dit le maître, va sur les chemins, le long des haies, fais en sorte que les gens viennent pour que ma maison soit pleine. » Une chose est sûre, pas un seul des premiers invités ne goûtera à mon festin. Dieu nous appelle au salut, c'est merveilleux. Et pourtant, on peut passer à côté en donnant toutes sortes d'excuses. Alors je sais bien que ce texte ne parle pas des rencontres de prière à l'église, ni des groupes de maison, ni du culte. Mais nous voyons dans ce texte comment on peut passer à côté de certains privilèges en inventant toutes sortes d'excuses. Si nous sommes sur cette terre, c'est pour adorer Dieu, chacun individuellement, mais aussi ensemble. Dieu s'est constitué un peuple nouveau, l'Église. Dieu sauve un peuple et non seulement des individus. C'est sur les disciples, lorsqu'ils étaient rassemblés, que le Saint-Esprit est venu. Lorsque nous sommes réunis avec nos frères et nos sœurs, c'est un moment privilégié où Dieu parle et agit. L'unité du corps de Christ se vit au-delà des temps, bien sûr, de rassemblement, mais les temps de rassemblement manifestent de façon particulière et forte l'unité du corps de Christ, l'Église. Une Église qui ne prie pas est une Église qui passe à côté d'une partie de sa vocation. Un disciple qui ne prie pas avec ses frères et sœurs aura du mal à voir la gloire de Dieu. Bien sûr, on peut prier seul chez soi. Mais imaginez si une équipe de foot ne s'entraînait jamais ensemble. Chacun pourrait s'entraîner dur individuellement, mais le jour du match, il n'y aurait pas de cohésion et le résultat serait certainement médiocre. D'autres questions se posent à propos de la prière. Dieu ne sait-il pas déjà tout ce qu'on a sur le cœur ? Pourquoi faudrait-il se réunir pour lui dire ensemble ? En fait, Dieu n'a pas besoin de notre prière, mais nous avons besoin de prier pour notre progrès spirituel. On peut dire la même chose avec le service. Dieu n'a pas besoin de notre service, mais nous avons besoin d'apprendre à servir. La prière est un don que Dieu nous a fait. Nous avons un libre accès auprès du Père et nous avons le droit de lui adresser la parole. Dieu, qui est bien plus grand que le président de la République, est pourtant bien plus accessible que ce dernier. Imaginez que vous vouliez téléphoner au président Macron ou bien que vous souhaitiez lui adresser un message. Vous devriez passer par plusieurs filtres avant que peut-être votre message lui parvienne. Et si par chance votre message lui parvient, est-ce que le président y prêtera attention ? Par la prière, nous avons le droit et l'accès direct au Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé même le président de la République, celui qui nous a créés et qui nous aime. Jésus, en reprenant un passage d'Ésaïe qui parle du temple, a dit « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. » En raison du contexte de cette parole, on a souvent utilisé ce verset pour parler des excès financiers dans certaines églises. Mais comment transforme-t-on une église en une caverne de voleurs? Cela commence en la désertant. Dieu nous demande de prier, car c'est bon pour nous, et même de prier sans cesse. C'est dire l'importance de la prière dans la vie du chrétien. Vous connaissez peut-être cette citation de Luther qui disait que le métier du chrétien, c'est de prier. Tout comme le cordonnier fabrique des chaussures ou répare des chaussures, et c'est son métier. Le métier du chrétien, c'est de consacrer du temps à la prière. Et dans notre vie de prière, il y a des moments où nous avons besoin de prier à plusieurs. Si nous veillons dans la prière, la maison de Dieu que nous sommes ne laissera pas entrer de voleurs. Laissez-moi maintenant vous lire un petit texte que j'ai trouvé sur Internet, que vous avez peut-être déjà lu sous des formes légèrement différentes. Il s'agit de la question « Combien de temps passons-nous à faire beaucoup de choses du quotidien ?» Alors je vous lis ce texte. « Prenons par hypothèse un homme de 70 ans, dynamique, téléphile et suffisamment sportif pour rester contre vents et marées encore vert. En supposant une consommation et un comportement linéaire tout au long de sa vie, on peut calculer le temps qu'il consacre aux petits gestes de la vie ordinaire. 10 ans à travailler, 23 ans à dormir, 9 ans à regarder la télévision, 1 an et 6 mois sur les bancs d'école jusqu'au bac, 6 mois ou 2 ans à se laver, ça dépend si on est un homme ou une femme, et toute une série d'autres choses qui prend aussi du temps. 16 ans à marcher, 6 ans à manger, 4 ans à rêver, 3 ans dans les transports en commun, 2 ans à rire, 2 ans à cuisiner, 1 an et 2 mois à faire des courses, 10 mois à remplir des formulaires administratifs, 6 mois à téléphoner, 3 mois à se laver les dents, 140 jours à faire la queue, 108 jours à se coiffer, 105 jours à faire l'amour, 53 jours aux toilettes, 50 jours à pleurer, 3 jours à regarder notre montre. Où se situe dans cette liste notre vie de prière et notre vie de prière communautaire? Si notre vie d'église se résume à vivre l'église le dimanche matin entre 10h15 et 11h45, et au passage je m'excuse d'avoir débordé il y a un mois d'une demi-heure, nous nous trompons. Je ne peux que vous encourager à participer dans la mesure du possible aux réunions de prière. Le fait que le temple soit appelé maison de prière et non maison d'enseignement, ni maison d'encouragement, ni maison de louange, et l'enseignement, la Torah, était très importante pour les Juifs. Le culte, la louange, etc., le sabbat, énormément. Mais le fait que le temple soit appelé maison de prière met en avant la prière. La prière recouvre de nombreux aspects de la vie spirituelle du chrétien et de l'Église. Il y a la prière de louange, le silence en prière, la confession, la prière inspirée par la parole de Dieu, l'intercession, la reconnaissance, les prières chantées, la méditation, l'écoute de l'Esprit-Saint, le combat spirituel. Et bien souvent, l'histoire en est témoin, c'est dans les réunions de prière que le réveil commence, que les projets de Dieu naissent dans nos cœurs, que la vision de Dieu s'établit en nous. Est-ce que j'y crois ? Par la prière, je participe à l'œuvre que Dieu veut accomplir. Jésus a dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Quelquefois, c'est un combat, rien que de venir à la rencontre de prière. D'un côté, je voudrais y aller, mais ce désir est comme étouffé. Il peut même m'arriver de prier pour trouver la motivation d'aller prier avec d'autres. Je crois, Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Je crois, Seigneur, que la prière communautaire est importante et bonne pour moi, mais viens à mon secours lorsque je risque de manquer le rendez-vous que tu me fixes. Peut-être que vous hésitez à rejoindre la rencontre de prière parce que vous pensez que vous ne priez pas assez bien, pas aussi bien que les autres. Et alors vous vous dites qu'il vaut mieux ne pas venir si c'est pour rester silencieux. Si vous pensez cela, j'aimerais vous dire que Dieu peut nous utiliser tels que nous sommes. Si nous avons soif de Dieu, ouvrons notre bouche et Dieu nous dirigera. Les plus belles prières ne sont pas celles qui contiennent le meilleur vocabulaire, mais celles qui sont prononcées avec un cœur débordant de soif. Et je vous assure que les prières qui m'ont le plus touché dans ma vie n'ont pas été de longues prières. Les longues prières, je ne m'en souviens plus. Je me souviens qu'elles étaient longues, mais je ne me souviens plus de leur contenu. Alors que les prières courtes sont celles qui nous marquent le plus. Dieu, lui aussi, aime les prières courtes et humbles. Alors après avoir dit cela, il ne faudrait pas que je sois trop long, et il est temps maintenant que je conclue aussi cette prédication. La rencontre de prière n'est pas seulement un temps où l'on parle en fermant les yeux. La rencontre de prière est une rencontre. Une rencontre entre frères et sœurs, mais aussi une rencontre ensemble avec Dieu. La dimension communautaire de la prière est indispensable si nous voulons que notre Église soit vivante. Dans la rencontre de prière, on vit des choses qu'on ne vit pas lors des cultes. Par exemple, nous pouvons plus précisément nous soutenir les uns les autres dans la prière. Nous l'avons fait la semaine dernière, pendant notre semaine de prière. Nous avons pu partager des sujets qui nous sont personnels ou qui concernent des personnes que nous avons particulièrement à cœur. Cette dimension de la prière, nous la vivons aussi dans les groupes de maison, mais nous pouvons difficilement la vivre le dimanche matin avec plus de 150 personnes. Alors, à la fin de cette prédication, à chacun de se poser la question suivante: où en suis-je dans ma vie de prière communautaire? Dernière chose encore, le danger, peut-être, avec ma prédication de ce matin et que j'ai pu, sans que cela ait été mon intention, culpabiliser quelqu'un de ne pas venir à la rencontre de prière. Si cela a été le cas, je souhaite parler avec vous. N'hésitez pas à venir me trouver, je serai heureux de partager avec vous sur ce sujet. Que Dieu vous bénisse dans votre vie de prière communautaire. Amen.